Comment identifier un guide aveugle ou un faux prophète? Le texte en bleu clair ou en bleu clair gras peut être cliqué pour obtenir un appui dans les écritures ou des détails dans les écrits. Beaucoup de gens pensent que les prophètes ne font que prédire l'avenir, mais Paul nous dit « Celui qui prophétise parle aux hommes pour l'édification, l'exhortation et la consolation. » 1 Cor 14:3. Tous les prédicateurs et enseignants prophétisent. S'ils n'ont pas été envoyés par Dieu et s'ils ne disent pas les paroles que Dieu leur a dit de dire, ce sont de faux prophètes. Je n'ai point envoyé ces prophètes et ils ont couru devant moi. Je ne leur ai point parlé et ils ont prophétisé. Jer 23:21. Les prophètes prophétisent le mensonge en mon nom. Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre, je ne leur ai point parlé. Jer 14:14. Aujourd'hui, les prédicateurs chrétiens guides aveugles sont les faux prophètes, qui n'ont pas été instruits par la voix et la lumière du Seigneur, non perfectionnés par le Seigneur, non dotés d'un ministère autorisé, non envoyés par le Seigneur et ne parlant pas des paroles venant de l'Esprit du Seigneur. Ils parlent plutôt depuis leur esprit charnel, la nature de mort, et prêchent leurs vaines opinions issues de l'imagination de leur cœur mauvais. Ce sont des loups déguisés en brebis, avides de votre argent, désireux de dominer sur vous. Dans leur cupidité, ils font de vous une marchandise par des paroles trompeuses. Sans aucune crainte de Dieu, les prédicateurs ignorent les enseignements de Jésus, ses commandements et ses avertissements, ainsi ils le renient comme Seigneur et Maître. Pour créer leur faux christianisme, les prédicateurs chrétiens guides aveugles ont sorti quelques versets de leur contexte, tout en ignorant d'innombrables autres, y compris ceux qui énoncent explicitement les exclusions, les exigences et les conditions qualificatives du salut. Ils passent aussi sous silence que chaque homme sera jugé sur ses œuvres et ses paroles. Les prédicateurs de la chrétienté sont les guides aveugles que Jésus nous a dit de quitter et de ne pas considérer. De la parole du Seigneur au-dedans, il y a des millions de prédicateurs guides aveugles. Et à ceux qui pensent ne pas être aveugles, la parole du Seigneur au-dedans a dit « Je travaille avec les aveugles, mais si tu crois voir et que tu n'es pas avec moi au ciel, je ferai de toi un objet de risée. » Dans les deux derniers versets de l'Évangile de Matthieu, Jésus ordonne à ses disciples d'aller enseigner toutes les nations, leur apprenant à observer tout ce que je vous ai commandé. Matthieu 28:19-20 Ainsi, ces vrais disciples sont censés nous enseigner à observer tous ces commandements, mais la chrétienté ignore tous ces commandements. De la parole du Seigneur au-dedans, ils ont éventré Jésus, ils ont rendu la Bible creuse, ils ont pris la Bible et en ont fait une chose impie, utilisée pour justifier leur immersion dans le péché. Ou, dans le christianisme d'aujourd'hui, est l'enseignement des commandements du Christ. Et qui montre aux gens comment devenir obéissant à tous ces commandements, qui enseigne « Soyez donc parfaits, comme votre Père qui est dans les cieux est parfait » Matthieu 5:48, et ensuite expliquer comment s'y conformer. Il existe de nombreuses références bibliques à l'exigence de perfection dans le Nouveau Testament, cliquez pour voir, et aussi dans l'Ancien Testament. Cliquez pour voir, seule la puissance de Dieu peut changer un homme pour qu'il devienne parfait, et l'achèvement de son processus de perfection en vous a lieu quand Jésus apparaît pour écraser la tête de Satan sous vos pieds. Romains 16:20. Nous devons être justes comme lui est juste. 1 John 3:7-10. Nous devons être parfaits comme le Père est parfait. Matthieu 5:48. Nous devons être miséricordieux comme lui est miséricordieux. Luc 6:36. Nous devons devenir purs comme lui est pur. 1 John 3:3. Mais comme celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. 1 Pétrus 1:15. Afin que nous marchions comme il a marché, 1 John 2:6, et que, comme il est, nous soyons nous aussi dans ce monde présent. 1 John 4:17. Il n'y a aucune souplesse et aucune équivoque dans aucune de ces exigences énoncées, qui enseigne « Soyez donc miséricordieux comme votre Père aussi est miséricordieux ». Luc 6:36, qui enseigne « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice ». Matthieu 6:33, qui enseigne « Repentez-vous ou périssez ». Luc 13:3, qui enseigne « Ne pêche plus ». John 5:14. Qui enseigne « Croyez en la lumière, vous y appuyez, lui faire confiance et lui obéir afin que vous deveniez des enfants de la lumière » John 12:36, qui enseigne « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive » Luc 9:23. Qui enseigne « Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple » Luc 14:33, qui enseigne « Celui qui trouvera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la trouvera » Matthieu 10:39. Qui enseigne comment faire la volonté de Dieu et ainsi aller au ciel. Pourtant Jésus nous avertit avec gravité, « Ce ne sont pas tous ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux » Matthieu 7:21. Il y a, sur ce site, une page web qui explique à fond ce que cela signifie et comment faire la volonté du Père qui est dans les cieux. Comment ? Pas votre prédicateur ? Alors il n'est pas un disciple du Christ, mais l'un des millions de guides aveugles, un ministre de Satan ? Transformé se faisant passer pour un ministre de justice. 2 Cor 11 14 15. Et la liste ci-dessus n'est que quelques-uns des commandements de Jésus, cliquez ici pour en voir beaucoup d'autres. Donc sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez pas à ses péchés et que vous ne receviez pas ses fléaux. Rev 18:4 Votre prédicateur n'a-t-il pas été perfectionné par le Christ? Alors, selon la parabole de Jésus ci-dessous, votre prédicateur est un guide aveugle. Puis il leur dit une parabole, un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous deux dans une fosse? Le disciple n'est pas au-dessus de son maître, mais quiconque est parfait purifié, rétabli à l'image spirituelle de Dieu, spécifiquement autorisé et perfectionné sera comme son maître. Pourquoi regardes-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, « Frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, quand toi-même tu ne vois pas la poutre qui est dans ton œil ?» Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil en devenant parfait comme le maître, et alors tu verras clairement pour ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. Luc 6:39-42 Un prédicateur perfectionné est comme le maître, Jésus, qui voit clairement quoi faire et entend quoi dire, mais les prédicateurs non perfectionnés sont des guides aveugles. Jésus a dit, « Laissez-les et ne vous en souciez pas, ce sont des guides et des enseignants aveugles. Et si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. » Matthieu 15:14 Ci-dessous se trouve une liste de contrôle des doctrines des faux prophètes, qui sont des guides aveugles. Un seul des points ci-dessous suffit à qualifier quelqu'un de faux prophète et d'antéchrist. Et sachez que les plus grands trompeurs sont ceux qui disent 98% de vérité et 2% de mensonge, ce qui est bien plus difficile à détecter que quelqu'un qui dit 50% de vérité et 50% de mensonge. Demande-t-il de l'argent? Prend-il un salaire? Sollicite-t-il des dons d'amour? Vous dit-il que vous devriez payer la dîme? Observe-t-il et ou célèbre-t-il certains jours comme spéciaux, dignes de son observation et de la vôtre? Interdit-il certains aliments? Porte-t-il de longues robes et ou des croix et ou de hauts chapeaux pour vous impressionner par sa sainteté? Suggère-t-il que ses adeptes s'habillent d'une manière uniforme? Fait-il la promotion du baptême d'eau, de quelque manière que ce soit? Fait-il la promotion du vin jus de raisin peint dans la communion ou l'Eucharistie? Affirme-t-il une autre voie de salut que la mort de votre nature égoïste et pécheresse sur la croix? Soutient-il que la perfection est impossible de ce côté de la tombe, dans cette vie? Vous dit-il tout ce qui ne va pas dans les églises, mais sans ensuite vous montrer comment parvenir vous-même à la perfection et à la pureté? Soutient-il que l'étude des Écritures est le moyen de croître spirituellement? Prêche-t-il que l'Évangile consiste à être sauvé de l'enfer après la mort, ou que l'Évangile, ce sont les livres de Matthieu, Marc, Luc et Jean? Met-il l'accent sur le feu de l'enfer éternel et la damnation, en essayant d'effrayer les gens pour qu'ils acceptent Jésus? Prêche-t-il que Jésus va revenir physiquement sur la terre et y régner en personne? Prêche-t-il que la grâce consiste à être sauvé en croyant en Jésus, et ou en disant une prière, et ou en disant que Jésus est Seigneur, et ou en étant baptisé d'eau? Il existe de nombreuses variantes de salut instantané par de minuscules œuvres mortes. Une secte affirmait que le simple fait de s'avancer dans l'allée en réponse à leur appel à l'autel aboutissait à être sauvé. D'autres exigent de dire oui. Vous dit-il que la loi est morte et qu'ainsi il n'y a pas de péché parce qu'il n'y a pas de loi à transgresser? Ou vous dit-il que, parce que vous croyez en Jésus, les lois ne comptent pas quand on les enfreint? Vous dit-il que vous êtes juste parce que vous croyez en Jésus? Vous dit-il qu'aucune croix n'est nécessaire pour vous, parce que Jésus a tout fait et a tout achevé? Se vante-t-il ou fanfaronne-t-il, flatte-t-il les gens? Élève-t-il la voix jusqu'au cri pour faire passer un message? Agite-t-il les bras lorsqu'il parle? Prétend-il que les Écritures sont la parole et la parole de Dieu, alors que Jésus est la parole et la parole de Dieu? Il n'y a pas un seul verset dans la Bible qui fasse référence à la parole écrite, où la parole ne peut être anéantie, où la parole fut ouverte, ou rechercher la parole, ou comme la parole l'a dit, ou lisez la parole, ou comprendre la parole, ou sainte parole, ou selon la parole montre, ou que dit la parole, ou prophétie de la parole, ou connaître la parole, parce que toutes ces références concernent les Écritures, cliquez pour voir. Enseigne-t-il que quiconque croit est l'un des éléments suivants, en Christ, en son nom, possédant la justice de Christ, crucifié avec Christ, ressuscité aux cieux, citoyen du ciel, dans le royaume, ayant revêtu Christ, un avec Christ, etc. À l'inverse, ce qui suit sont des doctrines d'un vrai prophète. Au moins certaines devraient être évidentes dans ses écrits, où ses paroles asterisque le vrai évangile se fait par la repentance pour devenir libre de tout péché, pour entrer en union avec Dieu écrit. Et pour être transporté dans le royaume des cieux tout en étant encore sur la terre et ensuite pour toujours, ce n'est pas un livre, il est prêché au-dedans de toute créature sous le ciel par Christ lui-même. De la parole du Seigneur au-dedans, le vrai évangile est une très bonne nouvelle. L'évangile est un mystère pour l'homme naturel, il ne peut le concevoir. L'Évangile n'est pas un livre à lire, il doit être révélé dans ton cœur. L'Évangile éternel vient à ceux qui ne sont pas souillés. Un cœur pur recevra librement l'Évangile glorieux. L'Évangile est assez radical, il dépasse l'entendement, l'union avec Christ, j'ai offert cela gratuitement à quiconque. Dans ses écrits, tu peux atteindre la voie du salut et réfuter les autres, tout en découvrant les profondeurs cachées de l'Évangile que Jésus est venu apporter. Jésus étant tout homme dans le monde, il est donné à tout homme dans le monde pour être cru, tandis qu'anonymement il supplie tous les hommes de se détourner du mal. Croire que Jésus est le Fils de Dieu ne vous apporte rien. Au contraire, vous devez croire Jésus, vous devez croire ce que Jésus vous dit. C'est cette foi à laquelle Jean 3:16 fait réellement référence. La lumière et la parole au-dedans de vous, c'est ce Jésus que vous devez croire. La foi consiste à entendre la parole de Dieu dans votre cœur et ensuite à obéir à ce qu'on vous dit de faire. Il n'y a pas de justice en dehors du fait de ne dire que ce que vous entendez Dieu vous dire de dire, de ne faire que ce que vous voyez Dieu vous montrer de faire, et de ne juger que selon ce que Dieu vous ordonne de juger. Il n'y a pas de justice en dehors de Dieu. L'homme est dans un état maudit et déchu, et rien sinon un cœur, une pensée et un esprit entièrement nouveau ne rendra un homme acceptable à Dieu. Aucun rituel, aucune cérémonie, aucune prière, aucun acte provenant de votre propre volonté ne vous rendra acceptable à Dieu. Les cérémonies, les prières et les rituels ne sont que des œuvres mortes bon marché, faites dans la volonté de l'homme. Votre première priorité dans la vie doit être de chercher le royaume de Dieu et la justice de Dieu, et vous devez chercher de tout votre cœur et de toute votre âme. La seule chose nécessaire, la bonne part, qui ne sera point ôtée, est de demeurer assis dans un humble silence pendant que vous attendez Dieu, en écoutant et en veillant à ses paroles prononcées et à ses révélations pour vous, puis d'obéir complètement à ce qu'il vous dit. Vous montrez votre respect et votre amour pour Dieu en l'attendant dans un humble silence puis, en obéissant à ce qu'il vous ordonne. Les premiers commandements que vous allez entendre du Seigneur sont des œuvres de repentance auxquelles vous devez obéir afin de progresser. Après avoir été crucifié, il vous sera ordonné de faire des œuvres qui sont votre joie, qui montrent l'amour de Dieu au monde et apportent gloire à Dieu. La grâce et le salut de Dieu sont accordés afin de former un peuple dévoué aux bonnes œuvres, lui qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité, acte sans loi, péché, et de se purifier un peuple qui lui appartienne en propre, zélé pour les bonnes œuvres. Tite 2:14 Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Christ Jésus pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions en faisant de bonnes œuvres. F2 dit qu'il vous rende parfait en toute bonne œuvre pour faire sa volonté, opérant en vous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Hébreux 13:21 Afin que vous marchiez d'une manière digne du Seigneur, lui plaisant à tous égards, portant du fruit en toute bonne œuvre. Colin dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Matthieu 5:16 Mais celui qui pratique la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées comme ayant été produites, formées et rendues possibles par Dieu. John 3:21 Car c'est Dieu qui produit en vous, et le vouloir d'agir et l'agir selon ses ordres, selon son bon plaisir. Phil 2:13 Ainsi donc, si quelqu'un se purifie de ces choses iniquité, absence de loi, péché, il sera un vase d'honneur, sanctifié et utile au Maître, préparé pour toute bonne œuvre. 2 Tim 2:21 Pour obtenir le salut, vous devez crucifier votre nature pécheresse et égoïste sur la croix intérieure du renoncement à soi. Vous devez mourir chaque jour. Vous devez mourir sur la croix pour ensuite ressusciter comme une nouvelle créature vivant une vie nouvelle. Votre esprit charnel, ainsi que votre mauvaise imagination et votre cœur mauvais, doivent être détruits sur la croix, au point que vous ne pensiez plus vos propres pensées. Tout le christianisme est devenu Babylone, comme Jean l'avait prophétisé. Le retour de Jésus est limité à une expérience individuelle où Jésus est vu dans le cœur des croyants purifiés. La communion ou l'Eucharistie, la confirmation, le baptême des nourrissons et tous les baptêmes d'eau sont des rituels inutiles et païens. Appelez Jésus Seigneur, ne fais pas de lui le Seigneur régnant et contrôlant sur toutes vos actions et sur chaque parole prononcée. Judas l'appelait Seigneur et Maître, mais il n'était certainement pas le Seigneur de Judas. Quiconque pèche encore est esclave du péché, John 8:34, et si vous êtes esclave du péché, le péché est votre maître. Quiconque pèche renie Jésus comme Seigneur et Maître, sa conduite nie que Jésus soit son véritable Seigneur et Maître. Vous pouvez l'appeler Seigneur, mais cela n'en fait pas votre Seigneur réel. Il n'y a qu'un seul baptême, par le feu, et c'est le baptême de mort qui détruit tout le péché restant en vous, dans lequel votre corps meurt et est enseveli, puis vous ressuscitez avec Jésus pour une vie nouvelle, en tant que nouvelle créature. Dieu et Jésus ne sont connus que par révélation, ce que vous voyez et entendez au-dedans de votre cœur. Dieu n'est pas connu en lisant à propos de Dieu ou de Jésus, ni en écoutant quelqu'un parler de Dieu ou de Jésus. La foi doit être spécifiquement donnée par Jésus, au moyen de la révélation que vous voyez et ou entendez de lui. Votre foi est un cheminement et doit croître par de multiples révélations successives. Vous êtes encore tenu d'observer les lois morales qui sont dans le cœur de chaque homme, ce qui inclut le noyau moral de la loi de Moïse, jusqu'à ce que vous ayez crucifié votre nature pécheresse, vos convoitises et vos affections sur la croix intérieure du renoncement à soi. C'est alors que vous recevez de Jésus la foi qui libère, reçue comme faisant partie du fruit de l'Esprit. On peut considérer que la loi intérieure est violée chaque fois que vous manifestez un fruit de la chair, ce qui inclut immoralité sexuelle, impureté, cupidité, saleté, propos insensés, plaisanterie, profanité, adultère, manque de maîtrise de soi, sorcellerie, crêle, jalousie, fureur, ambition égoïste, division, envie, meurtre, ivrognerie, débauche, faire la fête, mauvaise pensée, fornication, méchanceté, tromperie, blasphème, orgueil, colère, vantardise, flatterie, immodestie, immoralité et folie. N'importe lequel de ces éléments disqualifie tout homme pour le ciel. Un homme innocent de tous les fruits de la chair ci-dessus est en pleine conformité avec les exigences strictes du salut énoncées dans les Écritures. Il est nécessaire d'entrer dans le royaume des cieux tout en étant vivant sur la terre afin d'éviter d'être exclu du ciel à la mort. La destruction de tout péché chez un croyant est une exigence ferme qui doit être satisfaite sur la terre afin d'éviter d'être exclu du ciel après la mort. Vous devez être libéré de tout péché, même du désir de pécher. Après avoir crucifié votre nature égoïste et pécheresse, en tant que nouvelle créature, toutes vos actions sont suscitées par Dieu, et chacune des paroles que vous prononcez est ordonnée par Dieu immédiatement avant de parler, alors, et alors seulement, vous êtes juste, alors, et alors seulement, vous faites la volonté de Dieu. Astérisque avant que George Fox n'ait atteint le second stade de perfection et le royaume, pendant environ 3 ans, il fut envoyé par le Seigneur sur des missions spécifiques. Mais il ne faisait que ce qu'on lui disait expressément de faire, exactement au moment où on le lui disait. Puis il retournait à son domicile et continuait d'attendre le Seigneur. De plus, il était suffisamment perfectionné pour pouvoir parler et prier avec des paroles fournies par le Saint-Esprit. Ces paroles étaient si puissantes que même des églises tremblaient lorsqu'il priait en leur sein. Ainsi, un enseignement ou une prédication limitée peuvent être prescrits par le Seigneur avant que vous ne soyez complètement perfectionné, mais veillez à ne faire que ce qu'il vous dit de faire, rien de plus, rien de moins. Puis retournez chez vous pour continuer à attendre que le Seigneur vous communique davantage de son esprit par ces paroles que vous l'entendez vous dire. Parce que les éditeurs de ce site n'ont pas encore été rendus parfaits, et n'ont pas encore accent aigu dans le royaume, nous sommes aussi limités par le Seigneur encore davantage que Fox. Nous sommes restreints à l'écriture seulement, non autorisés à prêcher oralement, non autorisés à donner des conseils sur des questions personnelles, non autorisés à discuter avec quiconque en aucune circonstance, non autorisés à corriger quiconque à moins d'y être spécifiquement instruit. Nous ne sommes pas des guides, nous ne faisons que vous orienter vers le Seigneur pour votre direction, lui qui vous guidera si vous cherchez sincèrement sa direction en vous exposant à ses commandements. Nous sommes autorisés seulement à écrire parce que nos écrits sont susceptibles d'être corrigés par le Seigneur, et il fait effectivement des corrections, et parfois fournit aussi une formulation précise pour rendre les phrases plus claires. Ces restrictions seront levées lorsque nous aurons été complètement crucifiés, que la lumière se lèvera dans nos cœurs, et que le Seigneur apparaîtra en nous pour diriger chacune de nos paroles et toutes nos actions. Voir notre témoignage pour plus de détails sur nos progrès et nos restrictions. Jésus a dit que les faux prophètes en vêtements de brebis viendraient. Jean a dit que les antéchrists et les faux apôtres étaient venus et étaient sortis du milieu d'eux. Pierre a vu que les faux docteurs étaient venus. Paul et Jude ont vu que les faux apôtres étaient venus et ont averti les frères nuit et jour pendant 3 ans que d'autres viendraient. Et dans l'Apocalypse, Jean a vu que le monde entier devait suivre les faux prophètes et la fausse église, ce qui s'est produit peu après. La fausse église est la prostituée Babylone de l'Apocalypse, chevauchant la bête aux nombreux noms 41 000 sectes de la chrétienté, avec des cornes semblables à celles d'un agneau qui ressemble à la vraie Église, mais qui parle comme un dragon des hommes parlant depuis leur esprit charnel, qui est inimitié contre Dieu, et leurs vaines opinions issues de leurs imaginations mauvaises au lieu de prononcer des paroles fournies par le Saint-Esprit, comme Jésus et les apôtres le faisaient. Comment cela a-t-il pu arriver? Jésus nous a avertis que viendraient de faux prophètes, des guides aveugles et même de faux faiseurs de miracles. Jean a prédit que le monde entier suivrait une fausse Église. Les apôtres ont parlé de faux ministres enseignant existant déjà de leur vivant, puis, en 336 âpres. L'empereur romain Constantin, qui avait fait bouillir sa femme à mort et empoisonné son fils, devint en pratique le chef de l'Église et imposa des doctrines chrétiennes uniformes dans tout l'Empire romain. Et par la botte écrasante de l'armée romaine, il ordonna la mort ou l'exil des vrais chrétiens, allant jusqu'à ordonner la destruction de tout document qui ne soutenait pas les doctrines romaines officielles du christianisme. Comme cela avait été prophétisé en Revelation 18:3, l'Église s'était prostituée avec les rois de la terre, et on ne peut pas mêler une Église aux puissances de la terre et s'attendre à autre chose qu'à une religion monstrueuse, car les puissances de la terre sont motivées par la cupidité, l'approbation des hommes, les possessions, l'orgueil, l'envie, la vengeance, la soif de sang, toutes les caractéristiques humaines les plus basses. Ainsi, vers 388 après J.C., la vraie Église, comme cela avait été prophétisé en Revelation 12:6, cessa d'exister publiquement et fut chassée dans le désert. La Réforme n'a pas réussi à rétablir la vraie Église, car selon la parole du Seigneur au-dedans, les sectes protestantes n'ont rien inventé de nouveau, si ce n'est le salut instantané par la grâce. Ce sont des mensonges tordus et pernicieux, un défaut fatal qui détourne le juste. Ainsi la vraie Église ne devait plus réapparaître publiquement avant 1648 avec George Fox et les premiers Quakers. Pourtant, hélas, comme l'a aussi dit la parole du Seigneur au-dedans, la dernière substance de la foi Quake a disparu en 1880, il n'y a pas de crainte de Dieu et pas d'obéissance. Ainsi le monde s'est retrouvé avec les fausses églises et seulement des prédicateurs guides aveugles, faux prophètes, encore omniprésents dans le christianisme aujourd'hui. Cliquez ci-dessous pour voir les nombreuses descriptions détaillées, dans la Bible, des faux prophètes et des faux apôtres, les avertissements de Jésus, les avertissements des apôtres et d'autres avertissements. Les avertissements de l'Ancien Testament. De la parole du Seigneur au-dedans, gardez-vous des faux prophètes. Il y a des millions de prédicateurs guides aveugles. Comment les ministres peuvent-ils prétendre être miens, alors qu'au-dedans ils sont pleins de tromperies et d'hypocrisie? Ils font tout pour paraître. Les extravertis gagnent leur vie en enseignant les Écritures. Ceux qui prêchent contre la perfection manquent de foi sincère. Les faux prophètes séduisent les âmes instables. Je suis contre les bergers qui ont prophétisé un salut mensonger. Personne dans la chrétienté n'avertit le peuple au sujet du péché. Ils ont pris la Bible et en ont fait une chose impie, utilisée pour justifier leur immersion dans le péché. Ils ont banalisé la Bible. Ils ont éventré ce que Jésus avait à dire. Jésus n'est plus qu'un jungle. Ils m'oublient et enseignent des erreurs. Ils enseignent les commandements des hommes. C'est en vain qu'ils me rendent un culte. Ils emploient le mot « justice » à tout va sans comprendre ce qu'il signifie. Il n'y a pas d'espérance, il n'y a pas de direction, autre que étudier les Écritures. Malheur à eux, car ils ont interposé une forme extérieure entre l'amour de Dieu pour l'homme. 10 paroles venant de lui valent mieux que 10 lettres recopiées. Ils ne peuvent pas comprendre ce que fait l'Esprit. Leur prédication ne véhicule que l'orgueil de Samarie. Hors de la foi, ils enseignent un équilibre entre le bien et le mal. Ceux qui suivent les conseils de ces chefs non purifiés, leur vie est comme une bulle. Je refuse de leur répondre. Nous ignorons délibérément ceux qui sont de grande renommée. Le chef de leur armée est Lucifer. Ils veulent être fils, ils reconnaissent l'Écriture, celui qui est né de Dieu ne pèche point, mais ils continuent allègrement. Ces gens sont loin de moi, vivant dans le péché et enseignant aux autres l'inévitabilité du péché jusqu'à la mort. Le donneur de licence et l'esprit de grâce ne peuvent pas tenir ensemble. Dieu apporte la malédiction sur ces tours de passe-passe. Je dénonce encore ceux qui gagnent leur vie en prêchant les Écritures. Tout comme le judaïsme a été pris en main par l'ennemi, ainsi l'a été le christianisme qui est corrompu de part en part. Comme Daniel, tu es captif des Chaldéens. Ton lieu de culte est rempli d'oiseaux impurs. Babylone est grande et puissante. Babylone la grande, l'agrandissement de soi. Ô chrétienté, ne sois pas à l'aise dans Babylone. Malheur à ceux qui essaient de tirer le bien du mal. Dans ton service de culte, regarde autour de toi, vois-tu le Saint-Esprit? Le culte véritable consiste à ce que deux ou trois parlent selon ce que l'Esprit les meut à dire. Le christianisme n'a aucune idée de ce que je suis ni de ce que je défends. Il n'y a aucune église dans le monde que le Christ ait établie spécifiquement. Aucune des églises ne reflète le vrai christianisme. Les dirigeants du christianisme sont des chiens aveugles, muets, ignorants, professant tout savoir. Ils ne savent rien, professant tout savoir, ils vivent comme des insensés. Malgré son passé, le monde considère Augustin comme le plus grand expert en religion. L'Église catholique est médiévale, c'est une bête. Ceux de la mer Égée, leurs conseils sont épais et sombres, leurs cœurs sont calleux et froids. Les sectes protestantes n'ont rien inventé de nouveau, si ce n'est le salut instantané par la grâce. Ce sont des mensonges tordus et pernicieux, un défaut fatal qui détourne le juste. Es-tu d'accord avec ceux qui, dans leur arrogance, ont déclaré que Dieu excuse le mal chez les croyants? Ce n'est pas juste, mais cela leur est égal. Un seul celui qui fait les œuvres de mon Père peut entrer au ciel, ses œuvres confirment qui il est, seules ses œuvres le louent. Les vrais bergers prononcent des paroles venant de l'Esprit de Dieu immédiatement avant de parler. Comme Paul l'a dit, ces choses, nous les disons aussi, non avec des paroles qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec celles qu'enseigne le Saint-Esprit, expliquant les choses spirituelles par des paroles spirituelles. 1 Cor 2:13 Et comme Pierre l'a dit, si quelqu'un parle, qu'il parle selon les paroles de Dieu oracle, 1 Pé 4:11. Mais les guides aveugles parlent depuis leur esprit charnel, qui est inimitié contre Dieu, et depuis les imaginations mauvaises de leur cœur mauvais. Même Jésus ne jugeait pas, ne parlait pas et n'agissait pas sans l'impulsion spécifique de l'Esprit. Jésus a dit, « De moi-même, je ne puis rien faire. Je juge selon ce que j'entends, et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma propre volonté, mais la volonté du Père qui m'a envoyé. » John 5:30 Le Fils ne peut rien faire de lui-même, par sa propre volonté, mais il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Jean 5:19 J'ai beaucoup de choses à dire et à juger à votre sujet, mais celui qui m'a envoyé est vrai, et je ne dis au monde que les choses que j'ai entendues de lui. Jean 8:26 Car je ne parle pas de moi-même, mais le Père, qui m'a envoyé, m'ordonne lui-même ce que je dois dire et ce que je dois proclamer. Et je sais que l'obéissance à son commandement est la vie éternelle. Ainsi, tout ce que je le dis exactement comme le Père me l'a dit. Jean 12:49-50 Celui qui parle de lui-même, de son propre esprit cherche sa propre gloire, mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai, et il n'y a point d'injustice en lui. Jean 7:18 Si Jésus, aussi grand qu'il était, ne parlait que les paroles qu'il entendait du Père, alors combien plus tout homme devrait-il veiller à ne rien dire au sujet de Dieu ou de Jésus, à moins d'entendre les paroles exactes à prononcer à ce moment-là. Tout homme qui parle de Dieu ou du Christ sans les incitations spécifiques de l'Esprit cherche sa propre gloire, Jean 7:18, et il s'estime supérieur au Christ, car le Christ a dit, « Le disciple n'est pas au-dessus de son maître, mais quiconque est parfait purifié, restauré à l'image spirituelle de Dieu, spécifiquement autorisé et rendu parfait sera comme son maître. » Luc 6:39-42. Ce qui parle et ou œuvre pour Dieu, sans avoir été précisément mandaté pour chaque parole et chaque action, prétendent en substance que leurs propres paroles et leurs propres actes sont supérieurs à ce que ceux de Jésus auraient pu être s'il avait pris lui-même ses décisions sur ce qu'il fallait dire et faire. Mais le Maître voit tout ce qu'il y a à faire et entend tout ce qu'il y a à dire avant de parler. Quiconque n'a pas été expressément envoyé par Dieu et parle sans que Dieu lui fournisse les paroles à dire, est un guide aveugle qui cherche sa propre gloire, votre argent et votre admiration. Jésus a parlé de la condition spirituelle de tout chef religieux non purifié, dont le cœur n'a pas été purifié par lui au moyen de ses commandements de se repentir. Vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, mais au-dedans ils sont pleins de rapines et d'excès. Nettoyez d'abord ce qui est au-dedans de la coupe et du plat, afin que le dehors aussi devienne net. Malheur à vous, hypocrites. Vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors, mais qui au-dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute impureté. Ainsi vous paraissez juste aux hommes au dehors, mais au-dedans vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité péché. Matthieu 23:25-28 L'incapacité du guide aveugle à distinguer la voix du Seigneur des voix de la tromperie. Beaucoup de guides aveugles dans la chrétienté entendent des voix, mais ils ne peuvent pas distinguer les voix de la tromperie et la voix du Seigneur. De la parole du Seigneur au-dedans, vous aurez toujours des doutes jusqu'à ce que vous entendiez sa voix. Ma voix est comme le tonnerre sur les eaux, il y a des millions de prédicateurs guides aveugles. Sans qu'ils le sachent, c'est la voix du Seigneur qui l'identifie. Parmi les millions de prédicateurs guides aveugles, beaucoup entendent une voix qu'ils pensent être celle du Seigneur qui leur parle, mais ils ne savent pas vraiment que la vraie voix du Seigneur est comme le tonnerre sur les eaux, et qu'elle n'est entendue que par ceux qui ont été complètement crucifiés sur la croix intérieure du renoncement à soi, et la voix douce, légère du Saint-Esprit ou de la parole dans leur cœur, ne peut pas être identifiée avec précision comme étant différente de la voix du diable. Astérisque ainsi, le diable donne des volumes d'instructions et de prophéties aux guides aveugles, qui croient que c'est le Seigneur. Cela permet au diable d'exercer un très grand contrôle dans les 41 000 sectes de la chrétienté. En outre, le diable accomplit des guérisons miraculeuses que les guides aveugles et leurs adeptes prennent aussi pour l'œuvre du Seigneur, comme détaillé ci-dessous. Astérisque c'est pourquoi nous ne devrions suivre que les commandements entendus qui nous exhortent à nous repentir de comportements que nous comprenons comme étant mauvais. Car si nous suivons des commandements qui nous disent de faire autre chose, nous répondons à l'usurpation de Dieu par le diable, comme le font les guides aveugles de la chrétienté, sans s'en rendre compte. Vous pourriez entendre le Seigneur vous dire d'aller de l'avant dans votre intention d'acheter quelque chose ou de faire quelque chose que vous estimez nécessaire, et pourvu que ce ne soit rien que vous sachiez être mal, ni rien qu'il vous ait dit de ne pas faire par le passé, vous pouvez suivre ses suggestions avant de pouvoir distinguer sa voix. Si vous n'avez pas besoin de ce que vous envisagez d'acheter, il peut vous dire clairement « Tu n'en as pas besoin, Si ce n'est pas nécessaire de faire quelque chose que vous envisagez, il peut vous dire « ce n'est pas nécessaire ». Si c'est nécessaire et ou utile, il peut vous encourager à poursuivre. Nous entendrons la voix du Seigneur comme le tonnerre sur les eaux pour la première fois après nous être soumis au baptême de feu et de mort, afin de ressusciter comme une nouvelle créature. Alors, comme le dit Jean 10:3-5, nous connaîtrons sa voix, il nous conduira hors du monde vers le royaume, et nous fuirons les autres voies. Cliquez ici pour plus de détails sur la manière d'éviter d'être trompé par les voix de l'opposition. Ne vous laissez pas duper par des personnes qui ont de la puissance, mais pas la vérité. N'acceptez jamais une manifestation de puissance comme venant nécessairement de Dieu. Ne vous laissez pas tromper par une puissance accompagnée de mensonges. Souvenez-vous de Jannès et Jambrès, les magiciens égyptiens qui jetèrent leurs bâtons, lesquels se changèrent en serpents et qui changèrent les eaux d'Égypte en sang. Les faiseurs de miracles de la chrétienté, qui prêchent le faux évangile d'une grâce instantanée comme une licence pour excuser la poursuite du péché, tirent leur puissance de Satan. La puissance de Satan n'est pas limitée aux faux ministres chrétiens, elle se manifeste aussi fréquemment dans d'autres religions. La puissance sans la vérité est la manière dont la fausse église de Babylone a été établie. À moins que la puissance ne soit accompagnée du véritable évangile, liberté même du désir de péché, union avec le Christ et Dieu, et transfert dans le royaume de Dieu alors qu'on est encore sur terre, par la repentance sur la croix intérieure du renoncement à soi qui aboutit à l'apparition de Jésus dans votre cœur pour détruire tout péché, une telle puissance vient du diable et non de Dieu. Dans l'Apocalypse, il nous est dit que les esprits des démons feraient des miracles. Apoc 16:14, et les démons font des miracles par le moyen d'hommes qui mettent en scène un grand spectacle de religiosité. Il existe de nombreux ministères de guérison chrétiens très spectaculaires, très pompeux, emplis de grandes paroles de vanité, avec des cultes bruyants et tapageurs, mais vous les reconnaîtrez à leurs fruits dont ils manquent visiblement, la maîtrise de soi, la paix, la douceur, l'humilité, etc. Smith Wigglesworth, il y a plusieurs années, encore très loué par les pentecôtistes, avait un ministère de guérison par la foi où il frappait les gens à coups de poing dans le ventre pour les guérir, disant qu'il frappait le diable en eux. Et non, il a frappé un homme si fort qu'il est mort, mais bien sûr le ministre l'a ensuite ressuscité, vous les reconnaîtrez à leurs fruits, et la violence n'est pas un fruit de l'esprit, mais la douceur l'est. Un tel évangéliste actuel, largement acclamé et loué par la direction du mouvement pentecôtiste, guérit en frappant les gens, en leur donnant des coups de pied et en les frappant sur le front, tout en titubant comme un ivrogne et en criant son message. William Branham était un prédicateur qui accomplissait de grands miracles, est mort dans un accident de voiture en 1967, a encore aujourd'hui de nombreux disciples dévoués, et a été grandement loué par des dirigeants pentecôtistes et charismatiques comme Kenneth Hagin, Oral Roberts et Benny Hinn, tout cela à cause de sa capacité à accomplir des miracles. Branham a eu de nombreuses prophéties, reçues d'anges, dont celle selon laquelle les États-Unis seraient détruits et Jésus reviendrait en 1977. Branham était misogyne, enseignant un message très négatif sur les femmes en général, tout en affirmant qu'Ève avait eu des relations sexuelles avec le serpent dans le jardin d'Éden, ce qui aurait entraîné la naissance de Caïn, et que les descendants de Caïn sont des réprouvés, à savoir les scientifiques et les gens instruits d'autres dieux. Sa doctrine est totalement fausse car elle contredit gravement l'Écriture. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, Genèse 4:1. Les descendants de Caïn ont été anéantis lors du déluge de Noé, Genèse 6:9. Selon la parole du Seigneur au-dedans, les démons n'ont pas de relation sexuelle avec les humains, et les serpents non plus d'ailleurs. Pourtant, parce que Branham a eu tant de guérisons miraculeuses dans le monde entier, certains de ses disciples visitent sa tombe à chaque Pâques, s'attendant à ce qu'il ressuscite. Il est rapporté que le Seigneur nous avertit à trois reprises au sujet des faux prophètes chrétiens, ministres, évangélistes, enseignants qui accomplissent des miracles. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Matthieu 24:24 Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, qui feront des prodiges et des miracles pour séduire, s'il était possible, même les élus. Marc 13:22 Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Vous les reconnaîtrez donc à leurs fruits, ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur ». N'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, et n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom, et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom ? » Alors je leur déclarerai, « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité, péché, illégalité ou méchanceté. » Matthieu 7, 19, 23 de la parole du Seigneur au-dedans, « Je ne connais que ceux qui ont été crucifiés. Il sait tout, mais le fait qu'il vous connaisse signifie qu'il devient un avec vous. Ce qui se produit après que vous avez été crucifiés, c'est alors que nous le voyons pour la première fois avec un cœur pur et que nous entendons sa voix comme le tonnerre sur les eaux pour la première fois. Jusqu'alors, nous sommes en relation avec la parole et la lumière au-dedans de nos cœurs, plus le Saint-Esprit qui nous prépare à la rencontre d'unité avec Jésus, qui est saint, sans malice et séparé des pécheurs. Vous pouvez l'appeler Seigneur, vous pouvez l'appeler Maître, mais Judas aussi l'a fait. Appelez Jésus Seigneur, ne faites pas de lui votre Seigneur. Il est votre Seigneur seulement s'il vous a libéré de tout péché, s'il a détruit votre esprit charnel, s'il vous a purifié, et s'il fournit toutes vos paroles à dire, toutes vos pensées et tous les actes à accomplir. Le mouvement pentecôtiste a désormais dégénéré en un cirque de rires incontrôlés, de cris, de hurlements, de bruits d'animaux, d'ivresse, d'effondrements et d'incapacité à se relever, de personnes qui tressaillent et se convulsent spasmodiquement, tous affichant un manque de maîtrise de soi. Être rempli de l'esprit, c'est avoir ses pensées, ses paroles et ses actes contrôlés par l'esprit, non l'ivrognerie, la débauche, la sottise ou le rire dur et incontrôlé, toutes choses qui sont des fruits de la chair et qui violent la maîtrise de soi, la paix et la douceur, qui sont des fruits du Saint-Esprit, et au sujet des faux prophètes, Jésus nous a dit, « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits, ne vous laissez pas égarer. » Ce mouvement, connu sous le nom de la Bénédiction de Toronto, a des cultes alimentés par une forte illusion qui trompe les gens en leur faisant croire qu'ils vivent la puissance de Dieu, mais qui les laisse prisonniers de leurs péchés. Cette même puissance incroyable, qui s'empare des gens se voit dans l'hindouisme, connu sous le nom de Kundalini, éveil de la puissance du serpent. Les dirigeants du mouvement pentecôtiste tentent d'excuser l'ivresse du mouvement pentecôtiste en disant que Pierre et les disciples étaient tous ivres de l'esprit lorsque le Saint-Esprit a été répandu sur eux en acte 2. Il y a une différence radicale entre une ivresse incontrôlée et une exaltation joyeuse maîtrisée. Pierre et les disciples étaient en parfait contrôle, parlant dans les nombreuses langues des Juifs dispersés qui étaient revenus à Jérusalem. Leurs discours dans toutes ces langues différentes étaient reconnaissables. Pierre prêcha ensuite par le Saint-Esprit et convainquit 3000 hommes de devenir croyants en Jésus-Christ. Si Pierre et les autres disciples avaient titubé, ivres, en tombant et en marmonnant comme le font les pentecôtistes, ils auraient été totalement ignorés ou lapidés. Tenter de justifier leur comportement incontrôlé, satanique, en prétendant que Pierre et les disciples étaient ivres de l'esprit, est déraisonnable et honteux. Ils se sont joints aux moqueurs des disciples, qui dirent en se moquant, « Ces hommes sont pleins de vin nouveau », acte 2, 13. Ainsi, les dirigeants pentecôtistes se moquent aussi de la Pentecôte ainsi que de Pierre et des disciples. Se moquer, c'est faire paraître quelqu'un ou quelque chose stupide en riant de lui, en l'imitant, ou en disant quelque chose de méchant. C'est ce que firent les moqueurs à la Pentecôte, appelant Pierre et les disciples ivres de vin nouveau. Quelle qu'en soit la cause, l'ivrognerie est l'exact opposé de la maîtrise de soi, qui est un fruit du Saint-Esprit, Galates 5, 22-23. L'ivrognerie et la débauche ne sont pas des fruits du Saint-Esprit, ce sont des fruits de la chair, et ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas du royaume de Dieu, Galates 5, 19-21. La puissance de Satan se manifeste aussi fréquemment dans d'autres religions. Je peux témoigner d'une expérience personnelle effrayante avec un jeune homme que j'ai rencontré en train de mendier dans la rue. Cet individu a dit qu'il n'avait nulle part où dormir cette nuit-là, je l'ai donc invité chez moi, où j'ai été témoin de plusieurs manifestations surnaturelles de puissance. Il avait participé à Hare Krishna, à l'hindouisme, etc., et avait adopté un nom hindou. Il croyait qu'il n'y avait aucune différence entre le bien et le mal. Bien que je ne l'ai jamais rencontré auparavant, il a rapporté des détails de ma vie que même ma femme ne connaissait pas. Lorsque je l'ai laissé à l'étage pour écouter de la musique, il a fouillé dans mes plus de 40 CD et en a apporté deux, qu'il m'a tendus, en me disant correctement quel fils me les avait offerts en cadeau et en me reprochant de ne les avoir jamais écoutés, ce qui était également exact. Il avait aussi pris trois objets là où les CD étaient rangés et m'a dit que c'était des souvenirs du mariage de mon plus jeune fils et que je devrais les exposer fièrement pour honorer le mariage de mon fils plutôt que de les garder hors de vue. Il avait raison quant à leur origine. D'autres événements surnaturels s'étaient aussi produits avec lui. Il suggéra que Dieu m'avait créé pour le plaisir et que je devais m'adonner à tout ce que je désirais, y compris l'adultère. C'était avant que je sois délivré de la convoitise des femmes. Quand le matin arriva enfin, je lui dis qu'il devait partir, et nous montâmes dans notre voiture très fiable. Je tournai la clé, et le moteur s'arrêta 2 secondes plus tard. Je tournai de nouveau la clé, et le moteur s'arrêta encore. Je regardai dans le rétroviseur, et il était assis exactement au milieu, regardant le contact et priant si fort que son visage était littéralement devenu le rouge le plus éclatant que j'ai jamais vu chez un homme. Cela ressemblait beaucoup aux représentations courantes des diables. Je tendis la main vers la clé et, avec force, je la tournai et la maintins avec une grande détermination. Cette fois, la voiture démarra et continua de tourner, ce qui nous permit de nous débarrasser de cet individu. Bien que les faux prophètes de Babylone soient très difficiles à discerner, les élus ne sont pas trompés parce que leur amour de la vérité l'emporte sur l'impression que leur fait une démonstration de puissance accompagnée de mensonges. La fausse église de Babylone fait de grands prodiges et des miracles pour convaincre ceux qui n'ont pas été instruits, par révélation dans leur cœur, par l'Esprit de Dieu de ce qu'est le véritable évangile, la véritable espérance, l'amour par opposition à la convoitise, le péché par opposition à la justice, le trouble par opposition à la paix, l'humilité par opposition à l'orgueil, le bien par opposition au mal, la lumière par opposition aux ténèbres, l'âme par opposition au doux. Puisque les élus ont été instruits par l'Esprit au moyen de révélation, ils voient au-delà des miracles de la fausse Église et des faux prophètes. Ces faux prophètes vivent dans le péché et excusent un péché à vie. Le but de ce site web est de montrer comment être libéré du péché en bénéficiant de la puissance transformatrice de Dieu par la croix, ce qui conduit à l'union avec Dieu dans son royaume.